Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Savoir-être. Sous-titré « Une psychanalyste à l'écoute des êtres et de la société » est un essai de Claude Almos. Psychanalyste, essayiste française, connue notamment pour ses interventions publiques et ses ouvrages sur l'enfance, la parole et l'autorité. Les informations disponibles sur ce titre ne permettent pas d'en reconstituer avec certitude le sommaire ni les développements particuliers. Son intitulé situe toutefois clairement le livre à l'intersection de l'écoute clinique et de la réflexion sociale. Il ne s'agit donc pas d'un manuel de développement personnel fondé sur des recettes, mais d'une invitation à examiner ce que les relations, les mots et les normes collectives font au sujet, dans la continuité du travail public de Almos. L'enjeu est vraisemblablement de rendre la pensée psychanalytique accessible sans réduire les difficultés humaines à des comportements isolés. Le livre conduit ainsi à considérer les malaises individuels dans leur environnement familial, éducatif et social, tout en préservant la singularité de chaque expérience. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le savoir-être comme attention à la singularité des personnes. Le titre place le savoir-être du côté d'une disposition relationnelle plutôt que d'une compétence sociale à acquérir. Dans une perspective psychanalytique, être à l'écoute ne signifie pas appliquer une grille qui expliquerait immédiatement autrui. Cela suppose au contraire de reconnaître que les mots, les conduites et les souffrances d'une personne prennent sens dans une histoire qui ne se laisse pas entièrement généraliser. Cette orientation est cohérente avec la place accordée par Claude Almos à la parole dans ses autres travaux publics. Une écoute juste ne consiste ni à banaliser ce qui est dit, ni à imposer une interprétation, ni à transformer toute difficulté en diagnostic. Elle demande de distinguer le besoin d'être entendu du désir d'obtenir une réponse rapide. Cette distinction a une portée concrète dans les relations familiales, éducatives ou professionnelles. Face à un conflit, le problème n'est pas seulement de savoir quelles règles rappeler, mais aussi de comprendre ce qui a rendu la parole ou le désaccord difficile. L'intérêt d'un tel cadre est de résister aux explications simplistes du type caractère, manque de volonté ou inadaptation. Il rappelle que la relation à autrui engage une responsabilité de langage et de position, sans prétendre supprimer l'incertitude propre à toute rencontre. Deuxièmement, relier les difficultés intimes au cadre de la vie collective, le sous-titre annonce une double attention aux êtres et à la société. Cette articulation est importante parce qu'elle évite deux réductions opposées. La première consisterait à expliquer toute souffrance par la seule vie intérieure. Comme si les conditions de travail, les inégalités, les modèles familiaux ou les discours publics ne comptaient pas. La seconde ferait de l'individu un simple produit de son milieu, en effaçant son histoire propre et sa capacité à parler de ce qui lui arrive. L'approche associée à Claude Almos tient ensemble ces deux niveaux. Dans ses prises de position sur les crises sociales, elle a notamment souligné que des réalités collectives peuvent produire insécurité, honte et fragilisation psychique. Appliqué au projet de savoir-être, ce repère invite à examiner la manière dont une époque définit la réussite, l'autonomie, l'autorité ou la normalité. Ces définitions ne sont jamais neutres. Elles pèsent sur les attentes adressées aux adultes, aux parents et aux enfants, et peuvent transformer des problèmes sociaux en fautes individuelles. Le livre se distingue ainsi des discours qui promettent une adaptation immédiate à toutes les contraintes. Sa valeur analytique réside dans la possibilité de penser les liens entre expérience subjective et monde commun, sans confondre explication sociale et écoute clinique. Troisièmement, la parole comme condition de reconnaissance plutôt que comme simple communication, chez Claude Almos, la parole occupe une place centrale. Comme l'indique également le titre de son ouvrage Parler, c'est vivre. Cette référence permet de situer prudemment l'un des enjeux pertinents de savoir être parlé et écouté ne relève pas seulement de la transmission d'informations. Dans les liens humains, la parole donne une forme partageable à ce qui inquiète, blesse, oppose ou échappe encore à la compréhension. Elle permet aussi de reconnaître une personne comme interlocutrice, sans la traiter comme un problème à gérer. Cette exigence ne signifie pas que tout doit être dit à tout moment, ni que la parole résout à elle seule les conflits. Elle implique plutôt de chercher des mots ajustés à la situation, à l'âge, à la place et à la vulnérabilité de chacun. Les travaux de Almos sur la parole adressée aux enfants illustrent cette exigence ne pas bêtifier, ne pas mentir, mais ne pas faire porter à l'enfant une position d'adulte. À l'échelle sociale, le même principe appelle une vigilance envers les formules toutes faites qui masquent la réalité des expériences. Une parole responsable ne remplace pas l'action, mais elle conditionne la possibilité de nommer les problèmes et d'y répondre collectivement. Le savoir-être devient alors aussi un savoir-parler et laisser-parler. Quatrièmement, autorité, limite et respect dans les relations asymétriques. La réflexion de Claude Almos sur l'autorité fournit un point d'appui solide pour comprendre la dimension relationnelle suggérée par savoir-être. L'autorité y est pensée non comme une domination arbitraire, mais comme une fonction de repère particulièrement nécessaire dans les relations entre adultes et enfants. Cette distinction importe car l'opposition apparente entre autorité et respect conduit souvent à deux impasses. D'un côté, la contrainte humiliante réduit l'enfant ou le subordonné au silence et confond règles avec pouvoir. De l'autre, l'effacement de toute limite laisse la personne seule face à des exigences qu'elle ne peut pas encore organiser. Une autorité respectueuse doit donc pouvoir dire non, expliquer autant que possible et assumer la responsabilité de la place adulte, sans réclamer l'obéissance comme preuve d'amour. Ce cadre ne peut être transposé mécaniquement à tous les liens sociaux. Mais il éclaire une question plus générale, comment exercer une responsabilité sans nier la parole de celui qui dépend de nous. L'intérêt de cette perspective est de montrer que la bienveillance ne se confond pas avec le renoncement aux limites. Elle suppose au contraire des règles cohérentes, une parole claire et le refus des violences symboliques qui se présentent parfois comme de l'éducation ou de l'efficacité. En dernier lieu, une critique des réponses psychologiques qui isolent les individus. Le positionnement de savoir-être peut être compris à distance des ouvrages qui transforment les difficultés ordinaires en défauts personnels à corriger. La psychanalyse telle que la pratique et la présente Claude Almos ne fournit pas une méthode uniforme pour devenir plus performant, plus serein ou mieux adapté. Elle conduit à interroger les conflits, les pertes, les contradictions et les injonctions qui traversent une existence. Cette différence est décisive dans une société où les discours psychologiques peuvent parfois demander aux individus de résoudre seuls des problèmes dont les causes sont aussi institutionnelles ou économiques. Dans son livre ultérieur consacré à la crise, Almos critique précisément les approches qui individualisent abusivement les solutions à des atteintes collectives. Sans attribuer à savoir-être des analyses détaillées non vérifiées, ce repère éclaire la portée du sous-titre. Être à l'écoute de la société ne revient pas à psychologiser tous les débats publics. C'est reconnaître que les formes de précarité, de dévalorisation ou d'exclusion ont des effets concrets sur les relations et sur le sentiment de dignité. Cette orientation ne dispense pas chacun de ses choix, mais elle refuse de faire de la responsabilité individuelle une culpabilité totale. Elle rend possible une lecture plus juste des souffrances. Attentive à la fois aux ressources singulières des personnes et aux conditions communes qui les soutiennent ou les entravent. En conclusion, savoir-être s'adresse au lecteur qui cherche une réflexion exigeante sur les relations humaines plutôt qu'un programme de transformation personnelle. Il peut intéresser les parents, les éducateurs, les professionnels de l'accompagnement, mais aussi toute personne attentive aux effets des discours sociaux sur la vie intime. Son bénéfice principal est intellectuel et pratique, à la fois il encourage à mieux distinguer l'écoute de la complaisance, l'autorité de la domination, la responsabilité de la culpabilisation et la souffrance singulière des contraintes collectives qui peuvent l'aggraver. Les données accessibles ne permettent pas de présenter un plan détaillé de cet ouvrage, ni de lui attribuer des thèses précises au-delà de son orientation générale. Cette réserve est importante pour le lire sans lui prêter artificiellement un contenu de manuel. Sa place se situe davantage dans l'essai de psychanalyse ouvert sur la cité. Par rapport au livre de psychologie centré sur les techniques de communication ou les conseils d'amélioration de soi, il se distingue par le refus d'isoler les personnes de leurs liens et de leur contexte. Par rapport aux commentaires sociologiques qui privilégient les structures, il maintient l'attention à la parole, à l'histoire et à la position subjective. Cette double focalisation constitue son intérêt durable, penser les êtres sans oublier la société, et penser la société sans effacer les êtres. Si vous souhaitez soutenir Claude Almos, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.